Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Bonjour à tous, on est ravis de vous accompagner en ce dimanche dans les grandes gueules du sport sur RMC. Vous qui partez peut-être faire une petite course à vélo ce matin ou même un marathon. Tiens, j'ai un message de Hugo, fidèle auditeur des grandes gueules du sport, qui nous dit: vous m'avez accompagné sur toute ma prépa. Aujourd'hui c'est le grand jour, je vous écouterai pendant le marathon de Toulouse. Eh ben Hugo, on espère que... je sais pas si on a le casting aujourd'hui pour
venir au bout. Toulouse, chacun son marathon.
Est-ce que Hugo, d'entendre Julien Beneteau va te motiver ce matin? Ça va Julien?
Ça va, Jean?
Ouais, tu dirais que t'es un mec motivant, entraînant, comme ça, un peu comme Coach Courbis par exemple?
Parce que Coach Courbis, il est entraînant.
Il dit un bon entraîneur, c'est un entraîneur entraînant.
Je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question, mais en tout cas, courage à tous ceux qui vont faire les marathons aujourd'hui.
Si à vous, ouais, c'est vrai, il faut avoir de l'envie. Est-ce qu'il a déjà fait un marathon dans sa vie, Christophe Cessieux?
Le marathon des leveurs de coude.
Ah oui? D'accord.
Ouais, ça, je l'ai fait. T'as... 42 bistrots dans Saint-Germain. Et je peux te dire que tu finis dans un drôle d'état. Il l'a fait aussi, Jérôme Pinault, hier. Rien qu'à avoir cette tête, t'as compris.
Un seul bistrot, moi.
En fait, le problème, c'est que quand tu pars dans un truc comme ça, je peux pas dire à consommer avec modération derrière. Parce que c'est évident que c'était complètement
si tu modères dans un marathon. Dans chaque bistrot, tu modères.
Ah voilà, un verre d'eau. Oui, c'est vrai qu'il est à l'eau gazeuse ce matin, Jérôme Pinault.
Il fait chaud dans le studio.
Ouais, il fait très chaud dans le studio. Les GG qui étaient sur le terrain hier, hein, il était au Parc des Princes, Jérôme, ouais, il travaillait, ouais, il avait ça. Le match du PSG. Ouais. Julien était à la Défense Arena, voilà, il a tout regardé pour arriver au top, quoi. Pascal Dupraz, qui est au top aussi ce matin.
Au
salut
top,
Pascal.
Salut Georges, salut à tous.
Salut Pascal.
Pascal, avec qui on continue notre week-end, on était ensemble dans les Paris RMC hier.
Oui.
Ouais, je pense qu'il perd beaucoup d'argent en ce moment, Pascal.
Mais c'est pas le mien, c'est pas le mien, donc.
Alors, parce que vous savez que tous les samedis, Denis Charvet propose une dinguerie.
Hier je l'ai écouté, c'est zéro chance. J'étais nul hier. Autant parfois je me dis ça va passer.
Ah bah ouais, j'ai mis 20 euros sur sa dinguerie et j'ai compris ma douleur. Hein, je te dis tout de suite.
Calme, mais demande un remboursement. En plus, je l'ai écouté en direct, je me suis dit mais il est complètement malade, c'est aucune chance que ça passe.
Vous n'avez pas compris qu'il est payé par les entreprises de Paris pour plomber tout le monde en fait. Il n'a jamais gagné un sou de sa vie.
Il y a un seul truc qui est bien vu, c'est le Stade Français qui mène à la mi-temps et Toulouse qui gagne.
C'est ça.
C'est le seul truc qu'il avait vu.
On a tous été sidérés hier quand on a appris que Pascal avait suivi Denis dans sa dinguerie.
Bah oui, c'est complètement fou. Je me disais la chance du débutant, toi.
Mais c'est bien, ça montre qu'il y a de la confiance entre nous et on peut se suivre.
Moi, j'ai aucune confiance en Denis Charvet.
Il
me
côtoie beaucoup plus que nous.
Oui, c'est vrai. Je sais pas si on peut parler de confiance. Allez, jusqu'à midi, on a un beau programme, les grandes gueules du sport. À 10h, sur le ring du tennis, avec la finale du Rolex Paris Masters, à suivre à partir de 15h sur AMC. Yannick Sinner affronte le Canadien Félix Auger-Aliassime. S'il gagne, l'Italien sera numéro 1 mondial. Sinner mérite-t-il d'être le meilleur du monde devant Alcaraz? On va se poser la question, voter sur le compte X des GG du sport. Notre capitaine aujourd'hui est un capitaine de bord en pleine mer. Armel Lecléache en pleine transat Café Lord dans l'Atlantique avec son coéquipier Sébastien Josse sur leur ultime banque populaire. On sera avec nous en direct tout à l'heure. Visualisez le truc hein, quand même. Hein. Le gars, il est en plein milieu de l'océan. Il écoute les grandes gueules du sport, quoi. Donc, on espère qu'on va bien l'accompagner. Les jeux remontent le temps. Samedi prochain, le 15 de France retrouve l'Afrique du Sud, nos meilleurs ennemis, nous disait Christophe hier. Ce sera au Stade de France. Cela nous rappelle de mauvais souvenirs. On va se faire plaisir aujourd'hui. Il y a 26 ans, pratiquement jour pour jour, nos Bleus, c'était peut-être la plus belle victoire de leur histoire face aux Blacks. 99, la plus belle, Christophe?
Moi, je l'ai vécu en direct, donc pour moi, c'est la plus belle.
Non, attends, qu'est-ce que tu crois? On a tous 10 ans autour de la table, on a tous vécu en direct.
Vous étiez dans ton Youpala quand même.
Comment ça? Non, j'avais déjà 11 ans. J'étais là, allez, Richard Dourte à 11h dans le vestiaire. Alors que le cycliste Egan Bernal, vainqueur du Tour en 2019, a indiqué cette semaine que Pogacar faisait souvent passer ses concurrents, dont lui, pour des nuls. On va se poser cette question à travers vos expériences. Comment accepter de ne pas être le meilleur? Vous l'aurez compris, autour de la table, on n'a pas les meilleurs dans leur sport. Et puis sur le buzzer, Antoine Dupont a prolongé avec le Stade Toulousain jusqu'en 2031. Célébration en grande pompe
dans les sports,
à la mi-temps du match face au Stade Français. Alors qu'on attend toujours son retour de blessure. Le produit Dupont prend-il plus de place que le joueur? Je vous mets les petits taquets au début comme ça pour voir si vous êtes réveillé comme quand j'y sais. Vous ne respectez pas du tout au début. En fin d'émission, participez avec vos GG au jeu du sport. Aujourd'hui, vous pouvez gagner un smartphone Stellar X. 5S édition Chamonix Mont Blanc, le nouveau smartphone outdoor de la marque française CrossCore, pensé pour les passionnés de sport. Pour remporter votre smartphone,
préférais l'aspirateur, moi, tu vois, t'étais meilleur sur l'aspirateur.
Ah mais là le smartphone CrossCore, je peux te dire que c'est quand même un délire.
Il aspire aussi, non?
Ah non, mais par contre tu peux faire plein de trucs avec lui, tu peux partir à... tu peux monter l'Himalaya avec lui. Ah ouais, c'est pour la montagne, c'est un truc outdoor. Qui est donc l'inverse de indoor.
C'est des choses qui arrivent souvent, quoi, monter l'Himalaya.
Ouais, ouais, on peut souffler.
On sait jamais. Tu vois, qui aurait dit qu'un jour un influenceur allait monter en haut de l'Himalaya? Ouais. Ben voilà, c'est arrivé.
Et il avait son téléphone.
Et il avait son téléphone que vous pouvez remporter en appelant le 3216 touche 4 ou envoyer sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. 3216 pour participer avec vos GG, évidemment, et notre WhatsApp 06 12 424 424, et notre compte X. Mais d'abord, les GG, avant de retrouver un grand Bayern, le PSG l'est-il lui aussi?
La une des grandes gueules du sport.
Le coup d'envoi donné à l'instant par les Parisiens et par Vitinha. La passe en retrait d'Hakimi. La frappe de Ramos à côté. Énorme occasion pour le Portugais. Malgré une nette domination territoriale parisienne, mais 0-0. Plus de 80% de possession, on le rappelle. Il y a 4 minutes de temps additionnel et tu as raison. Il en reste un petit peu plus de 2. La dernière occasion. Gonzalo Ramos, la tête claquée par le portier niçois qui concède un nouveau corner. Énorme situation pour le Paris Saint-Germain. Kanginli, le pied gauche. Premier poteau, la tête et le but! La tête et le but! La tête et le but! Gonzalo Ramos! Au bout du bout du bout! Du temps additionnel! Et le banc qui fait de ça comme une victoire, c'est dingue! La joie de Luis Enrique! La joie de Luis Campos! Et c'est fini! Il n'y aura même pas d'engagement, c'est terrible pour l'OGC Nice! Paris prépare plutôt bien au final le choc face au Bayern mardi, victoire 1-0 contre Nice!
Ça va, Christophe?
Non, ça va pas. Ça me remémore. On était en direct hier avec Valentin. J'étais sous le bureau. J'étais trop déçu. Bah oui.
Mais avec le micro,
tu mets ton bus aller... quand même pendant 90 minutes devant le but. Et paf, à la 94e, ça passe. C'est
connaît,
énervant.
J'étais la gueule.
Ça passe.
Ouais. Sous le bureau. Et donc, pour présenter l'intégral sport. Intéressant.
La dernière phrase du commentateur, c'était qui?
C'était Valentin Jamin, ouais, qui est là en studio avec nous.
le PSG qui au final prépare bien le Bayern.
Mais oui,
mais ça change rien en fait.
Alors attends, après si tu veux faire les débats, avant qu'on commence le débat. Donc je vous rappelle, il aura fallu attendre le bout du bout du bout du temps additionnel face à Nice au Parc, donc pour que le PSG ne connaisse pas un quatrième match sans victoire sur les 5 dernières journées de Ligue 1. Donc ces buts de Ramos, c'est la 94e, vous l'avez entendu, qui permet à Paris de rester leader et de renouer avec le succès, même si c'était laborieux, avant de retrouver le Bayern Munich mardi à 21h en Ligue des Champions, à suivre sur AMC. Duel explosif entre les deux leaders actuels de la phase de Ligue, hein. C'est du 100% pour l'instant en Ligue des Champions. Les Bavarois de leur côté sont en feu. Ils ont laissé leur cadre au repos en Bundesliga ce week-end. Ils ont gagné 3-0 contre le Bayer Leverkusen. Bilan parfait pour eux depuis le début de la saison. 15 matchs, 15 victoires. Ça va, c'est pas trop mal, a priori, pour les Bavarois. En plus, nouvelle alerte rouge que l'on a appris tard hier soir pour Paris. Dembélé, entré en fin de match hier, s'est plaint de l'ischio après la rencontre. Encore un. Les GG, je vous pose la question. Avant PSG Bayern, 21h sur RMC, mardi. Oui ou non, ce PSG-là, j'insiste bien, ce PSG-là, celui que l'on voit actuellement, là, est-ce qu'il est favori contre le Bayern, Christophe Cessieux?
Non.
Bah, Pascal Duprat?
Bien sûr que oui.
Jérôme Pinault qui était au stade hier?
Tout comme mon Pascal, oui.
Comme ton Pascal,
oui.
Donc t'appartiens au football, n'est à personne d'autre. Voilà. Les auditeurs, voilà. C'est pas leur Pascal, c'est le tien.
C'est le mien.
Julien?
Également oui, mais c'est pas important.
Bah là, je t'invite à. Bonne journée à toi, Julien. On se retrouve tout à l'heure pour parler de tennis à 10h. On vous attend au 32-16. WhatsApp 06 12 424 424. Ce que vous ne savez pas dans les coulisses de la préparation des grandes gueules du sport, c'est que Bennett, à chaque fois qu'on lui envoie un message pour dire demain on va parler de ça, il fait ah ouais?
C'est vraiment un événement.
Et quoi? Mon événement.
Cache ta joie.
Valentin Jamin, donc, bah, c'était bien lui, était au Parc des Princes hier.
Bonjour.
Enchanté. Enchanté, Valentin. Alors, avant de parler peut-être sur ce qui s'est dit hier, Dembélé blessé, qu'est-ce qu'on sait ce matin?
Dembélé gêné, ça c'est ce qu'on sait. D'ailleurs, on l'avait écrit et on en avait parlé à l'antenne. Après le match face à Lorient cette semaine, il avait déjà ressenti une petite gêne et donc il était fortement pressenti sur le banc hier, il était sur le banc, il est entré à la 72e minute de jeu, il a joué 20 minutes, il y avait eu avant des premiers changements avec notamment Kangin Lee et Fabian Ruiz, donc il ne semble vraiment pas être à 100%. Ousmane Dembélé, qui, tu l'as dit, c'est un petit peu plein de l'ischio où il était blessé et la partie du corps qui lui a fait rater 7 matchs avec Paris.
C'est une possible rechute, quoi.
Possible rechute, en tout cas, aujourd'hui, ce matin, on peut dire qu'il est incertain en vue du match face au Bayern. On attend les séances d'entraînement qui vont avoir lieu d'ici là, mais ça sent pas super bon pour Ousmane Dembélé et la tendance pour le moment, c'est pas forcément de le voir titulaire, mais évidemment, ça peut évoluer.
Et ça s'ajoute évidemment au forfait de Désiré Doué, qui lui aussi s'est reblessé. Le discours hier après le match des Parisiens en vue du Bayern, c'était quoi, Valentin ?
Alors, il y a deux choses. Déjà, pas d'inquiétude, parce qu'on parle beaucoup de contenu d'un PSG poussif, d'un PSG qui manque de vitesse, qui ne crée pas de décalage. Dans les discours, on a vu notamment Gonzalo Ramos, Zabarni et Luis Enrique, c'était pas d'inquiétude. Pourquoi ? Parce que le match face au Bayern aura une physionomie complètement différente. Ce sera pas comme Christophe l'a dit.
Tout
le monde derrière un bus. Face au Barça, on l'a vu, les équipes jouent plus, les équipes libèrent plus d'espace, et ça, ça aide les Parisiens qui aiment avoir un petit peu plus d'espace pour attaquer, pour créer. Donc, il n'y a pas d'inquiétude sur le contenu. C'est vraiment le message qu'a tenu à faire passer Luis Enrique, qui a rappelé que Paris avait archi dominé. Il y a 75% de possession hier, 28 tirs à 5. Même chose face à Lorient cette
semaine. Vitinha a touché presque plus de ballons que le GC Nice en première période.
Exactement.
Bravo.
Ouais, en vue de l'adversité, il n'y a pas d'inquiétude. Il y avait aussi du soulagement. Parce que même si le but d'hier, c'est vrai, ne change pas grand-chose au contenu, mais en termes de confiance, on a vraiment senti que les Parisiens étaient soulagés d'avoir pris ces trois points, parce que ça met fin à une spirale un peu moyenne en Ligue 1. Il y avait une victoire en quatre matchs, donc on sentait monter la petite musique du PSG moyen. Et hier, on a vraiment senti ce soulagement d'avoir réussi à forcer le verrou niçois et d'arriver avec un peu plus de confiance, probablement en vue du Bayern, et sûrement un peu moins de critique également.
Pascal, pour toi, Paris reste favori, même ce PSG-là face au Bayern ?
Oui, bien sûr. Pour plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'ils sont champions d'Europe en titre, ça, il ne faut pas l'oublier. Je voudrais faire une petite parenthèse, si le Paris Saint-Germain est champion d'Europe en titre, c'est aussi parce que la Ligue 1 est un championnat performant. Et quoi qu'on en dise, même si hier, Franck Hez a choisi de défendre bas, avec une ligne de 6, où c'est très compliqué pour Paris, comme n'importe quelle équipe, malgré tout ça, Nice est une équipe consistante de Ligue 1. Il aurait fallu que le départ de match soit un peu meilleur pour les Niçois, pour qu'ils prennent davantage confiance. Cela dit, donc, Paris champion d'Europe, Paris, on l'a vu, a un état d'esprit remarquable depuis maintenant plus d'un an. Quand on voit à la fin du match la joie du banc de touche, la joie unanime de chacun des joueurs, y compris ceux qui ne sont pas rentrés, ça veut dire que le Paris Saint-Germain est une vraie équipe avec des joueurs impliqués. Et ce que je veux dire, c'est que bien sûr, la motivation va être supérieure, parce qu'ils ont malgré tout une petite marge en Ligue 1. On le verra dans les mois à venir. On le verra dans les mois à venir. Ils ont une marge qui leur permet d'assurer. Donc là, le Bayern, c'est le match, le premier match de référence. La possibilité, l'opportunité pour le Paris Saint-Germain d'être d'ores et déjà quasi qualifié si jamais il venait à battre le Bayern de Munich. Le premier contre le deuxième. Et puis aussi, les caractéristiques, Valentin l'a très bien souligné, le Bayern ne va pas se contenter de rester derrière. Or, contre le Paris Saint-Germain, eh bien, tu crois que tu vas confisquer le ballon à Paris, tu confisques rien du tout, même si t'es le Bayern, et en plus de ça tu peux te prendre des contre-attaques rapides, donc le Paris Saint-Germain est vraiment encore une fois favori de ce match. Seul petit bémol, mais il est d'importance, j'espère que Dembélé, c'est pas grave, voilà, parce que ça, mais on le savait pas hier soir,
tu sais à qui me fait penser, Pascal, à Candide. Le mec, il est toujours content. C'est le ravi de la crèche. Il a toujours le sourire.
Mais
Paris est champion d'Europe.
Mais tu sais à qui tu me fais penser?
Christophe,
moi j'aimerais que tu sois objectif. Non mais je dois dire une chose, les enfants. Contrairement à Christophe, Christophe est quelqu'un de supérieurement intelligent, qui fait très très bien son boulot, c'est un poète. Il traverse les époques, mais il manque d'objectivité dès lors qu'on parle du Paris Saint-Germain. Tout simplement parce qu'il est sous pavillon qatari. Tu m'emmerdes, Christophe. Dis que Paris Paris Saint-Germain est une très bonne équipe depuis maintenant plus d'un an, s'il te plaît.
Et la Ligue 1, c'est le meilleur championnat du monde. Je te le concède. Je te le concède, mon Pascal. Mais non, alors, je veux dire, c'est très difficile de donner un favori dans un match comme ça. Mais regarde, on a l'impression que tu regardes que le Paris Saint-Germain. Regarde un peu ce qui se fait de l'autre côté. Le Bayern Munich, c'est une machine en ce moment.
Mais ils viennent de battre le Bayern Leverkusen 3-0. Paris, on a mis 7.
Ils ont encaissé.
Ils ont encaissé 4 buts
en 9 matchs.
Oui.
Ils en ont marqué 32. Et derrière, ils sont solides comme jamais. Ils ont une totale confiance. C'est le match. Alors, je sais pas qui va gagner. Peut-être Paris va-t-il
aussi
gagner.
Le Bayern. Match référence, le Bayern. Il n'y a pas eu de match référence pour le Bayern encore.
Ouais,
les adversaires principaux en Bundesliga,
ils ont battu Chelsea en Ligue des Champions.
Chelsea qui rentrait.
Et le PSG a battu Barcelone. Voilà les matchs référence des deux. Mais ça se vaut à peu près. Franchement, c'est très difficile de donner un favori. Je crois que d'après les bookmakers, Paris est favori, est à 2,20 et le Bayern est à 2,80.
Dans les Paris, voyez,
ça se joue quand même à peu près kiff-kiff. Ben, et je suis désolé, mais le Paris Saint-Germain ne m'a pas laissé une impression dingue hier.
Le sujet, c'est ça, c'est parce que comme Georges Quirino est un peu vicieux, il veut nous.
Bien sûr, parce que lui,
il pense que ce PSG.
Il a déjà un avis tranché quand il pose la question.
Mais celui qu'on a vu hier.
Oui, le PSG de la Ligue des Champions, c'est pas le même que celui de la Ligue 1.
Attendez,
l'année dernière, c'était l'inverse.
Et aussi, le PSG, rappelons-le, là, c'est peut-être le plus gros match depuis le début de la saison parce qu'ils vont affronter un Bayern qui est à 100%. Hein. Le Barça, quand ils les ont affrontés, il manquait du monde. Ok, Paris aussi, il manquait des joueurs. Mais là, c'est face à un gros Bayern qui se déplace au Parc des Princes.
Je me souviens.
Si Dembélé n'est pas là, ça va être compliqué.
Ah, vous voyez, les gars.
Exactement. Je me souviens, avant le Barça, on faisait pareil. Ouais, le PSG, on va voir contre le Barça. Il leur manque ci, il leur manque là. Il n'y avait pas Doué, il n'y avait pas Dembélé au Barça. À l'arrivée, ils ont gagné 2-1. Les jeunes ont fait le taf. Ils leur ont marché dessus.
Donc ça veut dire que ce PSG-là va marcher sur tout le monde pendant 20 ans.
Plus jamais.
Parce qu'ils ont gagné, parce qu'ils ont battu Barcelone.
C'est incroyable.
Moi, j'ai un avis, mais je peux pas le.
Tu peux pas l'exprimer. Vas-y alors.
Je pense que pour battre ce PSG-là, il faut être défensivement monstrueux.
Et ben,
Le Bayern, pour l'instant, on ne sait pas qui c'est. Tu regardes la défense centrale. Non, mais tu regardes la défense centrale, tu regardes les joueurs, etc. Oui, ils sont solides. Ils ont pris que 4 buts en Bundesliga. Je suis d'accord avec Jean. Pour l'instant, la Bundesliga, les cadors de Bundesliga
ne
sont pas prêts, ne sont pas au niveau. Le Bayern, depuis de nombreuses années, marche sur la Bundesliga. On ne sait pas ce que ça donne.
Là, on a rien à dire que la Bundesliga, c'est un championnat.
Par rapport à la Ligue 1, évidemment, parce qu'on l'a dit, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat du monde.
Je dis pas ça, je dis juste que.
C'est un des plus durs.
Je dis pas ça, je dis juste que ce PSG-là, pour les contrer, pour les battre, il faut que défensivement, les équipes, ce soient des références mondiales. Et aujourd'hui, en Europe, je trouve pas qu'il y ait des équipes qui ont des grandes défenses. Le Barça nous l'a montré. Ils se sont fait ouvrir en 4 par le PSG à jouer le hors-jeu pratiquement à la ligne médiane. Et les autres, ils partent dans le dos. On prend tous les mastodontes. Excuse-moi, tu prends la charnière centrale aujourd'hui du Real de Madrid. On est loin de Paolo Maldini, Baresi. C'est pareil. C'est pas très solide. Le City, Arsenal, Liverpool. Et c'est pour ça que l'année dernière, ils ont galéré contre Liverpool. Parce que Liverpool, je trouve que Konaté Van Dijk, c'est peut-être ce qui se fait de mieux en Europe. Ils ont réussi à passer et derrière, ils se sont frisés. Donc, contre le Bayern, on va voir. Il leur manque peut-être des joueurs, etc. Mais pour revenir à la question, oui, ils sont favoris. Je suis comme Pascal, ils sont champions d'Europe en titre. Ils ont battu le Barça cette année.
On connaît que la marge n'est pas énorme.
La marge n'est pas énorme. Et on ne dit pas qu'ils sont ultra favoris. Ils jouent chez eux. Donc, oui, ils sont légèrement favoris. Mais encore une fois, c'est un match, il arrive là au mois de novembre, ils sont tous les deux premiers.
Oui, de toute façon, ce match,
il est symbolique, mais il est complètement anecdotique.
Ah ben d'accord, alors ne parlons pas de match, n'analysons pas des matchs jusqu'à mai. Tu veux parler de rien ce matin.
Je
suis d'accord.
Il aurait eu lieu fin décembre ou mois de janvier.
C'est comme les matchs de top 14 de la phase régulière. En fait, ces matchs, tu ne peux pas en tirer d'enseignement.
C'est juste,
tu engranges des points. Même s'ils perdent, ils resteront dans
les en fait, tu peux quand même en tirer des enseignements, puisque ces deux équipes-là sont invaincues sur leurs trois premiers matchs.
Exactement.
Ils ont exactement la même différence de but. Si aujourd'hui, enfin mercredi, le Paris Saint-Germain vient à battre le Bayern de Munich, on pourra considérer qu'en termes de confiance, mais le Bayern sera déficient par rapport au PSG.
Attention, on parle trop fort pour Jérôme Pinault, hein, qui vient de terminer sa canette.
Donc
gazeuse qui va mieux normalement.
Pardon, je parle trop fort. Je
ne sais pas ce que ce soit le dimanche matin.
Ça,
c'est sympa.
Non, mais tu étais au Parc des Princes hier. Tu as vu le match au plus près. Franchement, ce PSG-là, t'as pas quand même un peu.
Mais ce ne sera pas le même PSG. C'est ce que j'essaye de dire tout à l'heure.
Vas-y, c'est ton moment. Allez, lance-toi, Jérôme.
Non, non, mais moi, je pense que ce PSG-là, il gère complètement tous ses matchs. La Ligue 1, hier, on a senti ce soulagement pour ne pas faire un faux pas de plus en championnat. Mais ce n'était pas primordial et on sait que cette équipe est transformée quand elle joue en Ligue des Champions. Et oui, quand elle joue en Champions League, moi, elle m'impressionne. On a vraiment l'impression qu'elle ne peut pas perdre. Alors peut-être que ce match-là sera l'un des plus difficiles qu'ils ont eu à faire depuis quelques temps. Mais très honnêtement, je ne vois pas comment le Paris Saint-Germain n'est pas favori chez lui dans ce match-là. On me parle beaucoup du Bayern. On l'a fait déjà. Et c'était l'un des principaux arguments que j'avais avancé. C'est la Bundesliga, le Bayern marche dessus. Mais à chaque fois qu'ils ont rencontré Dortmund, le Bayern Leverkusen, c'est pas les équipes sont prêtes. La vraie équipe qu'ils ont à rencontrer, qui est prête et qui a envie, si ils veulent jouer ce match demain, mardi, à 100%, c'est le PSG. C'est un vrai premier test pour le Bayern.
Bien sûr, il a raison, Jérôme.
Tiens, sur WhatsApp, au 06-12-424-424, Bilal, supporter parisien, me dit « Nous sommes la meilleure équipe du monde, car on a gagné la Ligue des Champions l'année dernière.
Oui, c'est ça.
Mais je pense que le Bayern est la meilleure équipe du monde actuellement. Ouais. Elle roule sur tout. »
Mais non.
Valentin, Jamin, juste les dernières infos du groupe parisien. On sait un peu plus avant d'affronter le Bayern.
Tout est blessé, ça, on le sait, il est forfait. Sinon, tout le monde est de retour, puisque la bonne nouvelle d'hier, quand même, c'est que Fabian Ruiz est revenu. Le dernier qui était à l'infirmerie. Incertitude d'Embélé qu'on va essayer de lever au plus vite. Doué blessé, sinon le groupe parisien est au complet. Donc on va vraiment se rapprocher d'une équipe type peut-être face au Bayern mardi.
Et évidemment, le feuilleton d'Embélé, je pense, va nous occuper jusqu'à mardi.
Le Bayern tremble.
L'Ischio, s'il s'est retouché l'Ischio, il ne va pas être à 100% quoi qu'il arrive.
En tout cas, ça me semble difficile de l'imaginer titulaire, peut-être seulement pour quelques minutes.
On connaît ses fragilités depuis le début de saison. Il y a eu le droit à Toulouse, le gauche avec l'équipe de France.
On connaît sa fragilité depuis le début de sa carrière. Sauf l'année dernière. Merci Valentin. Évidemment, dès qu'on a les informations, tu peux revenir quand tu veux. Tu reviens quand tu veux, simplement. Voilà, c'est une grande famille RMC. Dans quelques instants, on va parler de l'OM, parce que Paris est leader avec 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, qui s'imposait aussi dans la douleur ici à
le meilleur championnat du monde.
Au CER hier. J'ai compris ça ce matin. La Ligue 1 est plus forte qu'on ne le dit. Ce qu'on a défendu dans les grandes gueules du sport, de là à dire que c'est le meilleur championnat du monde. Peut-être qu'il y a un gap. Allez, on revient dans quelques instants sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Georges Quirinot.
Les grandes gueules du sport avec Christophe Cessieux, Pascal Duprat, Julien Beneteau et Jérôme Pinault qui vient de prendre un carton jaune sur le WhatsApp de Alexandre de Valenciennes au 06-12-424-424. Jérôme mérite un carton jaune pour avoir osé dire Real de Madrid. C'est vraiment un truc qu'il faut arrêter totalement.
J'ai dit ça quand ?
C'est Real Madrid.
C'est le Bayern de Munich ou le Bayern de Munich ?
Bayern Munich.
L'Atlético de Madrid ou l'Atlético Madrid ?
Atlético de Madrid. Ça marche.
Okay. Et le FC de Barcelone ?
Bien sûr. Ce que je propose, c'est qu'on parle
à la Emerson. C'est sévère.
Ouais, c'est sévère. Je vous propose qu'on parle de l'Olympique. Oui, t'allais dire quoi ?
L'Olympique.
De Marseille. Ça marche. Qui a mis fin à sa mauvaise série de 3 matchs sans victoire hier, avec un succès difficile à Auxerre, un but d'Angel Gomez. Les Marseillais ont dû résister en infériorité numérique après l'expulsion de Garcia à la 65e. Oublié peut-être un peu sévère, mais ils ont pu compter sur un grand roulis dans les buts. Ouais. Marseille est donc deuxième à 2 points du PSG avant de retrouver la Ligue des Champions avec la réception de l'Atalanta à 21h sur RMC.
Franchement, hier, les 3 matchs de l'après-midi, on avait quand même les 3 meilleures équipes françaises, les 3 premières au classement. Ça a été franchement, Pascal, d'un niveau technique exceptionnel. On voit vraiment que la Ligue 1 hier a montré toute
sa splendeur.
Qu'est-ce que tu veux que je te réponde, Christophe ? C'est le dernier match d'une semaine à 3.
Avant les
Coupes d'Europe. Et puis regarde Marseille, il y a 8 ou 9 blessés à Marseille. Il laisse sur le côté Greenwood par exemple. Bon, c'est son choix.
Trop
c'est
fort,
le...
Pascal. Ouais.
Donc oui, bon, arrête fort. Un peu, ouais. Franchement, Christophe,
t'as vu, avec
tailler la
avec
Ligue 1.
Tiens,
franchement, arrête.
Le match d'hier, le match au parc.
ton équipe de cœur, elle est venue avec le bus, les bagnoles, les camionnettes.
Non, mais, à un moment donné, mais là aussi, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Le match du Paris Saint-Germain hier contre Nice, c'est un beau match de foot. Mais vous le regardez comment, vous, le football? Et surtout, les deux garçons. Non, bah non, Julien ne taille pas. Mais Jérôme, t'as été sportif professionnel, merde. Oh, vous croyez que c'est tous les jours, c'est facile, il suffit de prendre sa plume et d'écrire.
M'avait énervé parce qu'en 30 minutes.
C'est pas tous les jours que c'est facile.
Il
distribue des bourre-pifs. L'OM,
il y en a marre.
L'OM vainqueur 1-0 à Auxerre hier. Donc je disais qu'il met fin à sa mauvaise série. Est-ce rassurant ou inquiétant? Roberto De Zerbi, le coach marseillais, est venu en conférence de presse hier. Il a dit: pour moi, Auxerre, c'était aussi important que le Real. Heureusement qu'on a gagné, sinon vous m'auriez fusillé. On l'écoute.
Ce sont trois points importants que nous sommes allés chercher dans la souffrance. C'était un gros match. Je pense que si on avait pu jouer toujours de cette manière-là, avec cette méchanceté qu'on a pu avoir, surtout dans les fins de match, on aurait sûrement quelques points de plus et on serait peut-être plus haut au classement.
Trois points importants dans la souffrance, Bennett, pour l'OM hier. Inquiétant ou rassurant, cette OM? Greenwood et Paixão ont débuté sur le banc. Greenwood n'est même pas rentré, il faut le rappeler.
Ni l'un ni l'autre, parce que bon, c'est pas
un rabat-joie.
Non, mais c'est pas rassurant parce que effectivement le contenu hier était très mauvais. Alors ça suit une phase où dans le contenu c'était mieux, mais ils étaient pas payés au niveau des résultats, que ce soit contre le Sporting ou surtout à domicile contre Angers, je crois.
Ouais. C'est ça.
Contre Angers. Et voilà, j'ai écouté un petit peu hier, j'ai regardé le match et j'ai écouté un petit peu des médias locaux, des analyses, etc. Et j'étais d'accord avec une chose, c'était que de temps en temps, sur un championnat, sur 34 journées, tu vas pas faire que des beaux matchs, que arrive le mois de novembre, ils enchaînent les matchs avec la Ligue des Champions, et que de temps en temps, prendre trois points pas beaux, faut les prendre parce que t'as perdu des points contre Angers que tu n'aurais pas dû perdre.
Donc, l'année dernière, tu les perdais, ces points-là, peut-être.
Et puis surtout, Marseille a cette fâcheuse habitude de jamais finir à 11 et d'accumuler les minutes
suspendus
de jeu
et tout, c'est pénible, bien sûr.
Quand tu finis tous tes matchs à 10, ça te tire sur le physique et hier
et sur le mental aussi. Donc
la victoire d'hier, elle est pas belle, mais c'est trois points et comme le dit De Zerbi, rien que pour la sérénité, il fallait gagner ce match.
Pascal, on m'aurait fusillé si jamais j'avais perdu ce match. Il faut savoir les gagner. Bah
j'ai deux choses à dire. Je sais pas s'il va m'entendre, Roberto, mais possible que tout Paris française. Est-ce qu'il pourrait parler français?
Il a dit qu'il essayait.
Il pourrait parler français un peu. Allez,
il a dit bientôt.
Allez. Balance-toi, vas-y, balance-toi, merde.
Mais les Espagnols sont plus doués en langue que les Italiens, c'est bien connu.
Alors ça, c'est la première chose. Balance-toi. J'espère qu'on va le faire sortir et que ça va être sur tous les sites à Marseille. Pascal Duprat, de Bourbon, les guillemets. Balance-toi, Roberto.
Sibilé.
La deuxième chose, c'est que ces matchs-là, l'année dernière, l'OM les perdait. Mm-hmm. Donc, voilà. Auxerre a fait vous l'avez souligné, vous avez tout dit, Auxerre a fait malgré tout un bon match. Rouli a été très bon dans les buts. Incroyable. Mais Marseille a gagné. J'ai lu ce matin que le but était pourri, mais le but il est
la finition est
une très belle, une très belle action,
très bien.
Tu vois, Mourinho, c'est beau ce qu'il fait, tu vois, c'est insupportable, moi, tout ce que je lis de ça. C'est le troisième match de la semaine, Marseille a gagné, Marseille est deuxième à deux points de Paris Saint-Germain. Voilà, le championnat est pas joué, même si je pense que Paris a de la marge.
Tiens, on a Jonathan, supporter marseillais, qui nous appelle au 32-16, qui veut participer aux Grandes Gueules du Sport. Salut Jonathan. Jonathan.
Oui, bonjour.
Salut. Toi, t'es plutôt inquiet pour l'OM sur le niveau de jeu, c'est ça, après ce que t'as vu hier?
Oui, très inquiet. N'en déplaise à Pascal, je pense qu'à un moment donné, on est quand même qu'au mois de novembre, donc je veux bien que, comme disait Pascal, il y ait 8 ou 9 blessés, on n'a pas de chance. Mais à un moment donné, je veux dire, on a quand même aussi le droit de vouloir prendre du plaisir en regardant l'OM. Et à un moment donné, excusez-moi, mais quand vous finissez le match, qu'on a fait 6 frappes en 90 minutes, à un moment donné, c'est problématique, quoi. Donc, puis on a des erreurs de casting, je pense notamment à Angel Gomez, qui est catastrophique. j'en oublie, O'Reilly,
t'as sorti la tronçonneuse.
Ah, Jonathan, t'es encore plus de mauvaise humeur que Pascal ce matin. Effectivement.
Non, mais moi,
il n'y a pas grand chose qui t'appuie. Hein.
Donc, ouais. Je suis content qu'on ait pris les 3 points, mais à un moment donné, je veux dire. Alors, attendez, avant de me couper, juste, j'exporte mes arguments. Pascal disait l'année dernière, on les perdait ces matchs. Mais excuse-moi, Pascal. Contre Angers, on gagne pas, moins 2, on le perd avant le match. Parce que première mi-temps catastrophique. Excuse-moi, Pascal, mais il y a 10 jours à Lens, on le perd. D'accord.
T'excuses pas.
Vas-y. On le perd. Excuse-moi, Pascal, mais on les perd les matchs. Donc il y a rien à changer. À un moment donné, regardez Aubameyang hier. Au bout de 5 minutes, il est à 4 mètres des cages. Il n'arrive pas à cadrer sa frappe.
Ben oui.
Donc on a des erreurs de casting, Pascal. Il faut aussi le reconnaître.
Ouais, voilà. Pascal, t'es pas d'accord. Je trouve que c'est trop c'est dur, trois charges que dit.
Non, mais c'est ça a au moins le mérite d'être clair. Ça, c'est un supporter de l'OM. On dit tout le temps que les supporters manquent d'objectivité. Ben voilà un qui est dur avec son équipe, qui la voudrait meilleur. Oui, ben moi j'aurais bien voulu qu'il gagne aussi contre Angers, même si j'ai absolument rien contre Angers pour le championnat de France. Mais il se trouve que encore une fois, Paris est talonné par Marseille. Et moi, je trouve que c'est pas trop mal au mois de novembre, même si le match hier vous a laissé sur votre faim.
En fait, ouais. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quelques semaines, au niveau du jeu, on sentait une évolution, une progression.
Il y a pas quelques semaines, Bennett, il y a une semaine, les 20 premières minutes.
Ouais, du Sporting.
Au Sporting.
Ouais, t'as raison. Et là, on est retombé un peu.
À un moment donné, vous êtes quand même d'accord avec ce que nous dit Jonathan.
Non, c'est un peu fragile.
Non.
Mais ce que je pense, c'est, ce qui va être très important, en revanche, c'est, avec la défaite du Sporting, c'est le match de mercredi contre Atalanta. Là, pour le coup, c'est pour le parcours de l'OM en Ligue des Champions. Celui-là, il va être important.
Contre l'Atalanta, je rappelle.
De Bergame ou l'Atalanta Bergame?
L'Atalanta Bergame. Voilà. Du coup, on dit Roberto Zerbi.
Ah, il n'y a pas de Zerbi, ok, d'accord.
C'est impossible, il est Zerbi.
La Bayer qui cède. Le GLOM, donc, qui arrive à tenir le coup, hein, puisque Monaco a chuté hier face au Paris FC. Donc, on va voir si Strasbourg et Lyon vont réussir à suivre la cadence. Rennes-Strasbourg à 15h, Brest-Lyon à 20h45. Il y aura également Lens face à Lorient à 17h15. Tous les matchs de la 11e journée de Ligue 1 à suivre sur RMC dans quelques instants. Les amis, le zapping, vous allez me dire si on s'en fout, on s'en fout pas. On va parler de tennis, on va parler de ping. Oui, on va parler de ping, Bennett.
Et de pong.
Vous avez parlé. On parle de tennis de table si on n'est pas sur place. Oui, on va parler de tennis de table, sur place ou pas. Ah ouais, d'accord. Okay,
Non, mais je suis très content qu'on parle de tennis de table. Là, pour le coup, c'est mérité.
C'est un non-événement. Non-événement. Allez, avec Bennett, avec Pascal Duprat, très énervé ce matin, avec Christophe Cessieux qui se frise les moustaches parce qu'il a mis 5 pièces dans Pascal depuis ce matin, et Jérôme Pinault qui, ça y est avec nous à 9h41. On est ravis de l'accueillir en studio. À un moment donné, il faut être là, il faut être là dans l'émission, les gars. Allez, à tout de suite sur
RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport, Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Pascal Duprat et Jérôme Pinault. Ce matin, dans un instant, sur le RIC des GG, on va parler de la finale du Rolex Paris Masters à suivre à 15h sur RMC. Ce sera Auger Aliassime face à Yannick Sinner. Sinner mérite-t-il d'être numéro 1 mondial? Plus qu'Alcaraz, s'il gagne, il sera en haut du classement ATP. L'Italien, voté sur le compte X des GG du sport. On vous attend au 32-16 et sur notre numéro WhatsApp au 06 12 424 424. Tout de suite les GG, d'abord vous me dites on s'en fout, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Je m'en fous pas. On n'arrête plus. Alexis Lebrun, qualifié en demi-finale du tournoi Champions WTT de Montpellier. Julien Beneteau,
je m'en fous pas.
Pascal,
je m'en fous pas.
Christophe,
je m'en fous pas.
Jérôme,
je m'en fous pas non plus.
Léna Marjac est sur place à Montpellier. Salut Léna.
Salut Georges, salut tout le monde.
On va retrouver l'aîné des frères Lebrun en début d'après-midi pour une demi-finale face à un Suédois. C'est 13h15, je crois, l'horaire. Alexis, il a le sens du show depuis le début du tournoi. Hein.
Oui, c'est clair. Et surtout, il est showman même en dehors de la table. C'est le seul qui, à la fin de ses matchs, prend carrément le micro et enflamme la salle. Vous pouvez l'écouter.
Ah oui.
Mais bon, en soi, il peut se le permettre. Déjà parce qu'il est chez lui à Montpellier et aussi parce qu'Alexis régale depuis le début de la semaine. Je prends son 8e de finale face au japonais Harimoto. Ça a tout d'un match qu'on peut dire spectacle. Il y a le scénario, mené 2-7-0. Il recolle, sauf 4 balles de match. Et tout ça en faisant des énormes rallyes, des points spectaculaires parce qu'Alexis, c'est un joueur puissant qui claque voilà, des coups droits comme des revers pleines balles. Mais il aime aussi défendre loin de sa table, ce qui offre souvent des échanges assez fous. C'est ce que le public aime, c'est ce qu'Alexis aime aussi. Son carrière soir a été moins spectaculaire mais rempli de maîtrise et aujourd'hui en demi on peut s'attendre à un match assez dingue. On a d'un côté un joueur totalement imprévisible au jeu atypique, c'est Truls Morgard, le suédois 5e mondial, et puis de l'autre on a un joueur spectaculaire, un grand Alexis Lebrun depuis le début de la semaine. Donc rendez-vous à 13h15, ça peut être chaud comme match, très divertissant aussi à suivre dans une ambiance de folie, un chaudron, et ça c'est ce qu'Alexis adore.
On attend ça avec impatience.
Je tente, j'y crois pas. Alexis Lebrun va dépasser son petit frère, va devenir le numéro 1 français.
Ah,
qu'est-ce
ouais
que vous en pensez, oh, Léna, ouais. Léna, Léna, qu'est-ce que t'en dis, toi?
À l'heure actuelle, j'ai un peu de mal à y croire, mais parce que Félix est vraiment, vraiment très, très fort. Même si là, oui, certes, il a perdu cette semaine, mais Félix, en termes de niveau de jeu, c'est vraiment très, très fort. J'ai ouais un peu de mal à y croire.
Mais c'est aussi la présidente du fan club, Félix Lebrun, quand même.
Non, mais en vrai, c'est intéressant de voir Alexis. Intéressant de voir Alexis aussi performer au plus haut niveau.
Oui. Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec les sœurs Williams?
Ah, tu veux dire à quel niveau? Tu veux dire qu'elle se...
Là, Alexis, on passe peut-être de succéder à son frère sur le tournoi de Montpellier. C'est un gros tournoi. Un coup, c'est un des Lebrun. Et les Williams, à un moment donné, c'était ça. Alors, c'était au plus haut niveau avec les grands chefs.
Oui, mais c'est comme chez les Williams, mais... c'est le petit frère qui est meilleur que...
Ouais. Exactement.
Pour l'instant, la grande sœur. Ouais. Bon, on va voir. Ouais, si jamais ils arrivent à se pousser vers le haut, c'est intéressant.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que ça est en train de prendre ouais beaucoup de place, le ping. Hein.
Bien sûr.
Ça va être bien.
Bah, le tennis de table devient plus important. Ah, oui, et plus intéressant que le tennis sans table.
Bien sûr.
On disait hier. Il faut pas oublier le troisième larron quand même de l'équipe de France.
Simon Gauzier.
Hier, par contre, il a pas vu de jour.
Mais il a quand même battu Félix. Il a battu Félix sur ce tournoi.
Pour la première fois.
Grâce à lui aussi, ils ont quand même été champions d'Europe par équipe il y a une semaine ou deux. Voilà,
pas facile hein, pour un sportif français en ce moment, derrière les Lebrun de percer, c'est chapeau à lui parce que le parcours il est beau dans l'ombre.
Il était là avant eux en fait.
Pascal.
Et après,
c'est très très sympa à regarder. On doit le reconnaître. Et avec des Français qui performent, c'est que plus sympa à regarder.
Alors on va suivre ça avec intérêt. D'ailleurs, la Fédération internationale commence à se poser la question s'il ne faudrait pas délocaliser à l'avenir ce tournoi à Paris même, hein, pour qu'il y ait encore plus de mouvements. On en parlera certainement dans les prochaines semaines. Merci Léna d'avoir été avec nous.
Masters.
Non, on va garder les deux. Bon, on peut tout faire à Paris. Tu sais, il y a beaucoup de salles maintenant. Allez, on zappe. Je m'en fous pas. Nicolas Mahut a définitivement tiré sa révérence hier lors d'une cérémonie émouvante au Rolex Paris Masters. Christophe?
Non, je trouve ça émouvant. C'est un mec sympa en plus.
Il est sympa. Pascal?
J'aime bien parce que...
Pareil, mais je vais écouter Bennett.
Jérôme,
son copain, il l'a chambré dans l'équipe.
T'en fous. Bennett, ça
Moi, je m'en fous.
Bah, oui,
tu l'appelais 52, Nico, c'est ça
52 minutes.
Parce qu'il a perdu en 52 minutes.
Ouais, c'était fantastique. Il l'a bien raconté dans l'équipe. Hein. Ouais. Il a raconté exactement la scène. Puisqu'on était à Indian Wells, il joue Federer.
Avec Nicolas Mahut, ouais.
Alors, Nicolas Mahut joue sur le central d'Indian Wells. Et d'habitude, nous, les joueurs, quand on va regarder un match, on se met au bord du court, quoi, dans la fameuse player's box qu'on appelle ça. Et je sais pas pourquoi, avec Paulo Mathieu, ce jour-là, on s'est mis, mais tout en haut du stade. Donc là, on était au milieu des Américains, qui étaient avec leurs burgers, leurs chips et leurs coca, tranquilles. Puis là, tout d'un coup. Mais c'était vraiment ça, tu vois. Et là, tout d'un coup, il y a 6-1-4-1 pour Federer, qui était injouable. Et je discutais avec Paulo, on dit putain, c'est dur pour Nico. Hein. Et puis, le temps qu'on discute, il paume le jeu encore. Donc là, il y a 6-1-5-1. Et là, ça faisait 52 minutes que le match avait commencé. Là, il y a un Américain qui est deux rangs à côté de nous et qui se lève et fait « Man, 52 minutes, it's fast !»
52 minutes, c'est rapide.
Et là, nous, on est partis en fou rire. 30 secondes après, le match était plié. On redescend au vestiaire. On va voir Nico, qui était déçu, mais pas trop, parce qu'il n'avait pas eu le temps d'être déçu. On a pu se permettre de lui dire, écoute, bon, il était injouable, des questions que vous voyez comme ça, c'est pas grave. Il dit, on a vécu une scène, parce que lui, il n'a pas entendu le 52 minutes, c'était tellement loin. Et donc après, on l'a appelé 52, tout le temps 52.
Insupportable, les mecs. Comme ça. Les pires potes du monde.
Il était mort de rire dans le temps des faits.
Bon, il a tiré sa révérence hier, je rappelle. Hein. Il a arrêté sa carrière professionnelle mardi après son double. Carrière qui s'arrête après un quart de siècle hein, sur le circuit. Ouais. 4 titres en grand chelem remportés en double, 4 tournois, 5 en double. Il y a eu la victoire en Coupe Davis et le match le plus long de l'histoire de l'ère Open, évidemment, à Wimbledon en 2010, 11h05 face à Isner. C'était émouvant, franchement, hier.
Ouais, il avait déjà eu un premier truc à Roland Garros au Simon Mathieu. Après, hier, c'était émouvant parce que c'est 25 ans et que de carrière, qu'on est un sport très itinérant, même avant le circuit professionnel. Donc, on voyage, on n'est jamais chez nous. Moi, j'ai vécu avec Nicolas Mahut au Pôle France de Poitiers, à l'INSEP. On était ensemble dans la chambre et quand on est arrivé au Centre National d'Entraînement où on était interne, chacun dans une chambre, à 20 ans, 21 ans, on avait passé plus de temps l'un avec l'autre qu'avec le reste de nos familles, parce qu'on était tout le temps ensemble. C'était un moment avec son fils, parce qu'il l'a dit, qu'il n'avait pas été souvent là et qu'il va essayer d'être plus là. Et puis aujourd'hui, Nicolas Mahut, c'est, tu l'as dit, le palmarès, mais dans l'histoire du double. Alors déjà en simple, ça a été un très bon joueur parce qu'il était top 40, il a gagné des tournois sur circuit. Mais en double, avec Pierre Hugerbert, pour moi, c'est la plus grande équipe française de tous les temps. Ils ont gagné tous les grands chelems, ils ont gagné le Masters. C'est plus fort que Santoro Lodra, c'est plus fort que... Alors il y a certaines équipes des Mousquetaires qui ont tout gagné aussi, mais c'était une autre époque. Forget Lecomte, qui sont invaincus en Coupe Davis ensemble avec 11 victoires pour 11 matchs joués, mais n'ont pas beaucoup joué ensemble sur le circuit. Benedetto Mahut, moi c'est le seul regret de ma carrière. Tu sais, quand on me dit t'as pas gagné de titre en simple, etc. Le seul regret que j'ai dans ma carrière, un vrai regret, parce que j'aurais pu connaître une émotion exceptionnelle, c'est de pas avoir gagné un grand chelem en double avec Nico. Parce que notre histoire, on a fait plusieurs fois demi-finale, et après on n'a pas beaucoup joué ensemble. Mais si on avait gagné un truc, l'émotion que ça nous aurait procuré, un grand chelem ensemble, aurait été différente. Donc,
Il faut mettre du respect sur le dôme de Nicolas Mahut.
Moi, je trouve ça dommage que le dôme ne soit pas aussi.
En France, on est un peu. On a du mal.
Simple. Ouais. Pourquoi dans les autres pays, c'est.
Anglo-saxons, aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Ouais. L'Angleterre, et d'ailleurs, ils ont une vraie politique de développement de double, et les Anglais, personne ne le sait, mais sur les 5-6 dernières années, ils ont eu 3-4 numéro 1 mondiaux du double différent.
Ouais. C'est tellement chouette le double à voir et à jouer. Ouais, c'est sympa.
Allez, on zappe. Magnifique hommage à Nicolas Mahut. Je m'en fous pas, les amis. En boxe, 10 ans après, une revanche Mayweather-Pacquiao se précise à Las Vegas. Christophe
je m'en fous pas, mais je m'en fous en même temps, tu vois. Ouais.
Pascal
Je m'en fous, mais je m'en fous pas.
Jérôme
Je m'en fous pas, mais c'est ridicule.
Bennett.
Voilà. Oh, c'est bon, j'écoute.
Allez, bon, allez, je vais quand même le raconter. C'est le très sérieux Ring Magazine qui a sorti l'info cette année. On se rapproche d'un combat en avril dans la sphère de Las Vegas. Vous savez, cette nouvelle salle hyper moderne entre Mayweather, à 49 ans, face à Pacquiao, 47 ans. Vous savez que c'était le combat du siècle, hein, à l'époque. On l'avait même fait sur RMC à 3h du matin, je me rappelle, avec Pierre Dorian et Brahim Asloum. On l'avait commenté. C'était incroyable.
C'était un vrai événement à l'époque. Tu sais que c'est l'événement qui a généré le plus de recettes
de pay-per-view, là.
500 millions de dollars ça avait été généré.
Mais Weather avait gagné, hein. C'est un combat assez décevant, d'ailleurs.
Ouais, complètement décevant, ouais. Nul.
Pas dingue. Mais le fait qu'on se retrouve.
J'ai dit 10 ans plus tard, c'est encore plus nul.
Mais on l'a pas encore, mais c'est beaucoup.
Le seul intérêt, ça sera sur Netflix. C'est d'attirer du monde au pay-per-view. En tout cas, moi, je raquerai pas pour regarder ce combat, je vous le dis tout de suite.
Pascal, toi, de retrouver De Quinca, star, hein, se retrouver sur le ring à Vegas.
Mais en fait, je vais pas regarder, c'est ridicule. Je trouve ça ridicule. Voilà.
Je suis d'accord avec et t'as juste envie. Alors je leur dirai pas en face parce que j'ai peur d'en prendre une. Mais si tu dis mais les gars, quoi, sérieux, pas maintenant.
Non, sérieux, il y a que les thunes.
Et Tyson, les amis, il fait pareil.
C'est ridicule,
hein.
Pareil.
Non, parce que tu vois, dans 5 ans ou 6 ans, est-ce que sur Netflix, pour pas le citer, ils vont se dire tiens, on va mettre Federer-Nadal au Madison Square Garden?
Bien sûr qu'ils vont le tenter.
Ils vont le tenter.
Et les gars, ils vont pas y aller jouer quand même.
Non, mais du coup, qu'est-ce que tu veux dire?
Tu vas être défait de regarder.
T'es inquiet vers où on va en fait?
Bah, bien sûr, parce que tu vas avoir envie.
Tournoi des légendes à Roland Garros.
Ouais, c'est du doux, c'est des émissions.
C'est pas pareil. Tournoi des légendes.
C'est comme les matchs des anciens en Angleterre qui remplissent les stades. Mais ça joue tranquille, c'est amical, c'est sympa. On sait pourquoi. Là, on remet en. on remet le contexte comme si c'était la compète.
Mais est-ce qu'ils vont pas écorner leur image?
Bien sûr qu'ils vont les corner.
Mayweather qui a jamais été battu dans sa carrière, hein, je rappelle. Hein, en plus, imaginez, il tombe contre Pacquiao à 50 ans. Ouais, ça serait quand même ballot. Allez, on zappe. Merci les amis. J'aurais pu parler de Kylian Mbappé qui a marqué un nouveau doublé hier et qui continue bien son soulier d'or. Voilà, la victoire face à Valence hier. Dans quelques instants, les GG, on va aller sur le ring. Tiens, il n'y aura pas Mayweather ni Pacquiao, je vous rassure. On va parler de tennis. Sinner mérite-t-il d'être numéro 1 mondial plus qu'Alcaraz? Il peut retrouver cette place s'il gagne le Masters 1000 de Paris, le Rolex Paris Masters, cet après-midi à 15h en finale contre Jali Yassim. Ce sera à suivre sur RMC. A tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.